Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller le matin après une grosse fête qui a eu lieu chez vous? Oui. Alors, quand je dis grosse fête, hein, j'imagine qu'on peut imaginer plein de choses et que ça va pas mal dépendre de qui on est pour ce que signifie une grosse fête. Bref, une super soirée entre amis. Les amis étaient là en nombre. Et puis l'ambiance était du tonnerre, et comme c'est souvent le cas quand l'ambiance est du tonnerre, on va se coucher à point d'heure. On est un peu fatigué, donc on décide qu'on laisse les choses comme ça et on va se coucher. Et quand le matin arrive et qu'on se réveille, on retrouve la maison sans dessus dessous. Et puis on se dit, mais oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une question qui nous assaille. Et il y a déjà un petit coup de blues qui est là, hein, parce qu'on est tout seul. On est souvent un petit peu fatigué et il y a cette question qui vous assaille et qui vous en rajoute une couche de blues. Comment avons-nous pu faire la fête dans un tel taudis, dans un tel bazar? Donc nous sommes dans une série de prédications dont le thème est Réveille-toi, car nous avons envie de nous rapprocher de Dieu. On a envie de se laisser saisir par Dieu, on a envie d'être spirituellement réveillé. On a l'impression parfois qu'on est dans un monde qui est un tissu de mensonges, que la réalité est voilée à nos yeux et que Dieu nous appelle à nous réveiller. Et pour cela, il nous offre une nouvelle naissance afin de pouvoir suivre Jésus et il nous donne tout ce qui est nécessaire pour nous aimer les uns les autres. Et se réveiller, c'est parfois un peu douloureux. Parce que quand on se réveille, eh bien notre sensibilité au bien et au mal est comme renforcée, aiguisée. Je vais voir si ça marche. Et parfois, notre vie ressemble à cette grosse fête. On a une vie géniale, absolument extraordinaire. Et quand on se réveille, tout d'un coup, eh bien, on mesure le désordre qu'il y a dans notre vie. Et on se dit, mais comment est-ce possible de vivre comme ça? Et il faut s'atteler au rangement. On se réveille et il faut s'atteler, il faut faire la vaisselle, il faut commencer à remettre les choses en place. Et heureusement, heureusement, Jésus est un ami fidèle qui est resté jusqu'à la fin de la fête. Et il ne nous laisse pas faire la vaisselle tout seul. Il ne nous laisse pas ranger notre maison tout seul. Il ne nous laisse pas mettre de l'ordre dans nos vies tout seul. Mais il est là, il nous aide. Et là où on n'y arrive pas, eh bien il le fait pour nous. Je vous propose de lire ensemble deux textes. Le premier, c'est le psaume 32. Psaume 32 de David, cantique. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu as un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. David exprime le bonheur qu'il y a à pouvoir se repentir et accueillir le pardon de Dieu. Et le deuxième texte que nous allons lire se trouve en Marc, chapitre 1, les versets 14 et 15. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus, au début de son ministère, fait de la repentance le thème de sa prédication. Alors quand on lit « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle », certainement que Jésus disait plein d'autres choses et qu'en fait, ces deux choses, de croire en Dieu et de se repentir, est un résumé de ce qu'il est en train d'annoncer. Et s'il commence comme cela, eh bien c'est parce que la repentance est absolument centrale pour s'approcher de Dieu et accueillir le royaume que Jésus a inauguré. Ici, c'est marqué « changer d'attitude ». Mais si on lit dans une version un peu plus ancienne, il est question de se repentir. « Repentez-vous ». Mais le terme « repentez-vous » aujourd'hui a une connotation assez négative, on ne le comprend pas bien. Et clairement, en grec, si on prend le terme qui est utilisé, il est question de changer d'attitude. Si on pense à l'écologie, ça ne sert à rien de dire « mais attention, il va y avoir plein de catastrophes » et continuer dans le même mode de vie que nous avons actuellement. Il faut que cela aboutisse à un changement. À un changement dans notre manière de vivre, on pourrait dire à une repentance. Mais pour pouvoir le faire, il faut comprendre ce qui ne va pas. Il faut pouvoir mettre des mots sur ce qui est difficile, sur ce qu'on fait de faux, afin de pouvoir changer notre mode de vie. Et avec Dieu, c'est un peu la même chose. Pour pouvoir changer d'attitude, se repentir, il faut comprendre ce qui ne va pas, mettre des mots dessus pour pouvoir orienter notre vie différemment. Et c'est ce qui va nous occuper ce matin. La confession des péchés, eh bien, c'est mettre des mots sur ce qui ne va pas. Et si on choisit de confesser nos péchés, ce n'est pas juste pour faire une jolie liste et continuer de plus belle, c'est pour pouvoir identifier ce qui ne va pas, demander pardon à Dieu et changer de vie, changer de comportement. Je vous propose ce matin, de voir comment Dieu nous propose de confesser nos péchés et quels sont les dangers qui sont liés à cela. Ensuite, nous verrons les effets bénéfiques de la confession des péchés. Et enfin, je proposerai quelques pistes pour pouvoir mettre tout cela en pratique. Alors, il y a deux types de confession des péchés qu'on voit dans la Bible. Il y a une confession des péchés qui se fait devant Dieu et une confession des péchés qui se fait devant les hommes. Alors quand on pense à se confesser les péchés les uns aux autres, le texte qui est un petit peu emblématique, le verset qui est emblématique, se trouve en Jacques, chapitre 5, le verset 14, je crois. Verset 16, pardon. « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » Alors, il faudrait replacer tout ça dans son contexte, mais si, en général, on pense à ce texte-là, quand on pense à la confession les uns envers les autres, c'est parce que, en grec, le terme « confesser ses péchés » est utilisé. Mais quand on élargit un petit peu et qu'on ne se focalise pas sur le terme « confesser nos péchés les uns aux autres », eh bien, tout d'un coup, il y a une multitude de textes, d'histoires, de récits qui peuvent nous venir à l'esprit. Je pense, par exemple, à Matthieu 18. Matthieu 18 parle de discipline d'église. Il est question si un frère a péché. Je vois des gens qui froncent les sourcils, attention, discipline d'église, je vais vous expliquer. C'est si, tout d'un coup, un frère a péché contre nous, certaines versions ajoutent contre toi, eh bien, il est question d'aller trouver ce frère, quand je dis frère, hein, ça peut être une sœur aussi, bien sûr, d'aller trouver cette personne et de lui dire, mais attention, là, tu es sur un chemin qui est un peu dangereux. Et puis, le texte continue et dit, mais si cette personne ne t'écoute pas, eh bien, tu prends un autre frère avec toi, une autre sœur, et tu vas trouver cette personne. Et si cette personne s'entête dans son péché, eh bien, porte l'affaire devant l'Église, et puis que toute l'Église en prenne connaissance. Et je trouve cela très intéressant. Parce que ça veut dire que dans une communauté, dans une église, on est appelé à veiller les uns sur les autres. Et quand quelqu'un est en train de faire fausse route, on est appelé à aller l'interpeller. Et ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est que c'est pas dire « vous avez vu lui comment il se comporte », mais franchement, mais non, il y a une interaction avec lui. La première chose à faire, c'est d'aller le trouver. Et je dirais, pour pouvoir aller trouver une personne, il faut aussi qu'il y ait un lien de confiance qui soit là. Si vous voyez quelqu'un à l'église, vous ne lui parlez jamais, et puis que vous allez commencer à mettre le point sur ce que vous considérez comme étant difficile, je pense que ce sera absolument contre-productif. Mais quand il y a une relation de confiance qu'elle a, on est appelé à aider nos frères et sœurs. Vous savez, il y a un psaume que je trouve, je crois que c'est le psaume 5, il y a un verset que je trouve absolument magnifique qui dit « Leur gosier est un sépulcre ouvert hein. ». Leur gosier, leur gorge est un tombeau ouvert. Pourquoi ? Ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Et des personnes qui savent nous caresser dans le sens du poil, on en trouve partout. Mais des personnes qui savent venir avec amour, c'est essentiel, venir nous dire « mais est-ce que tu es sûr que là, c'est ce que Dieu t'appelle à faire ?» En général, si on arrive à les compter sur les doigts d'une main, eh bien, on est fort chanceux. Un autre texte qui parle de la confession des péchés, c'est 1 Jean, chapitre 1. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Et là, si nous sommes appelés à être dans la lumière, c'est que nous sommes appelés à ne pas cacher nos fautes, appelés à pouvoir vivre dans une certaine forme de transparence. Et vous le voyez, là, on a juste vu deux textes, mais on pourrait encore en parcourir de nombreux autres qui nous appellent à vivre une vie où nous osons confesser nos péchés. Ce que je trouve étonnant dans ces deux textes, c'est que la confession des péchés n'est pas une punition. Vous savez, des fois, on peut avoir l'idée que la repentance, on a fait une faute, alors pour expier cette faute, il faut confesser notre péché. Et que c'est en quelque sorte la punition par laquelle on doit passer pour être pardonné. Et en fait, quand on lit la Bible, on voit que la confession des péchés est en fait une opportunité, une bénédiction que Dieu nous donne pour pouvoir être réconcilié avec lui. Et là, je parle surtout de l'aspect entre nous et Dieu, mais bien sûr que pour être réconcilié les uns avec les autres, eh bien, parfois, il faut aussi avouer nos fautes et demander pardon à l'autre. Et en fait, quand on s'ouvre aux autres sur ce qui fait notre faiblesse, et il faut le dire, ça fait notre faiblesse, mais parfois ça fait aussi notre honte, eh bien, en réalité, ça nous donne une grande force. Parce que, entre chrétiens, nous sommes appelés à nous aider à vivre une vie qui honore Dieu. Donc voilà quelques mots sur l'intérêt, l'importance que la Bible nous dit sur la confession des péchés devant les hommes. Et puis, confesser ses péchés devant Dieu, nous avons lu le psaume 32 tout à l'heure qui disait « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. » Et je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça après avoir péché contre Dieu. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, quand on pêche, ben on n'a pas envie de se placer devant Dieu, on n'a pas envie de reconnaître nos torts. Et puis, en fait, on n'est pas bien, on est mal, il y a notre conscience qui vient nous accuser. Et puis, je crois aussi que Dieu conduit les circonstances pour nous pousser à la repentance. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Waouh! Juste incroyable! Et quand on s'est mal comporté devant Dieu et que tout d'un coup on va lui demander pardon, mais quel soulagement ça apporte dans nos vies. Il y a comme un nouveau souffle qui est là parce que Jésus est mort sur la croix pour qu'on soit pardonné. La confession des péchés devant Dieu, je crois, est une évidence et c'est une source de grande bénédiction. Alors, la confession des péchés a aussi quelques risques. Je vais commencer par les risques de la confession des péchés devant Dieu. Alors vous allez vous dire, mais est-ce qu'on risque quelque chose quand on est devant Dieu et qu'on confesse ses péchés? Alors je dirais oui et non. Mais il y en a quand même deux que je vois et je crois qu'il faut y être attentif. Le premier risque, c'est de penser que nous avons déjà confessé nos péchés devant Dieu et que nous n'avons donc plus besoin de le faire. Et d'une certaine manière, bien sûr, une fois qu'on a confessé nos péchés devant Dieu, on n'a pas besoin de réciter nos péchés en boucle comme une habitude. Quand Dieu nous pardonne, la faute est derrière nous, elle est définitivement pardonnée. Et pourtant, nous avons besoin de revenir régulièrement devant Dieu, de faire un petit bilan, d'être honnête, de regarder notre vie. Et quand on le fait, on remarque qu'on a encore besoin d'être transformé. J'avais été frappé, j'avais commencé une fois à lire les entretiens de Confucius. Confucius était un sage chinois et un de ses disciples, Zheng Zi, dit « Chaque jour, je m'examine à trois égards. Ai-je manqué de loyauté en servant les autres? Ai-je manqué de sincérité envers mes amis? Ai-je négligé de pratiquer les enseignements que je transmets ?» Et j'avais été frappé de me dire « Mais cet homme, tous les jours, il fait un petit bilan et il regarde s'il est sur la bonne voie. » C'est un non-chrétien, il ne connaît pas Dieu, il n'a aucune assurance du pardon, et pourtant, il prend le temps de faire ce petit examen. Et moi, je me suis dit, mais je suis chrétien, je sais que Dieu il va m'accueillir favorablement, je sais que si je lui confesse mes péchés, il va me pardonner. Et non seulement il va me pardonner, mais il va envoyer son esprit pour me transformer, pour que demain, eh bien, je sois différent et je ne commette pas les mêmes fautes. Et est-ce que j'ai ce même engouement à chercher une vie droite. Et je me dis, mais si un païen avait envie de mener cette vie, à combien plus forte raison nous qui sommes chrétiens, sommes-nous appelés à régulièrement nous placer devant Dieu et voir si on est toujours sur le bon chemin. Donc le premier risque, c'est de croire que c'est déjà fait. Et le deuxième risque, c'est de le faire par habitude. Et si on le fait chaque jour, évidemment, il y a ce risque-là, même si on le fait chaque semaine ou chaque année, il peut y avoir ce risque de se dire, bon ben, finalement, on va confesser nos péchés, et puis c'est le travail de Dieu de pardonner, de toute façon, non? Vous avez déjà entendu ça? Oui, hein? Mais c'est horrible comme phrase. C'est que, si on confesse nos péchés, il faut que ça vienne du cœur, il ne faut pas que ce soit juste une routine. Des fois, on entend des personnes, ils vont se confesser, ils font leurs trois, je dis Ave Maria, parce que mais vous savez, je crois que chez les évangéliques, il y a d'autres habitudes, hein, et puis la chose est réglée. Non, mais il doit y avoir une repentance, ça doit venir du cœur, on doit s'excuser sincèrement devant Dieu. Sinon, à quoi ça sert? Et puis, devant les hommes, eh bien là, je pense que quand j'ai parlé de la confession, je suis sûr, devant les hommes, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui sont montées en vous, et vous vous êtes dit, mais attention, c'est risqué ce truc-là. Et vous avez raison. Je veux dire, la confession des péchés publics devant les hommes, déjà, elle n'est pas si fréquente dans la Bible. Là où l'insistance est, c'est vraiment la confession devant Dieu. Et puis, en plus, il y a tout un tas de dérives qui peuvent arriver lorsqu'on se confessent les péchés les uns aux autres. Alors j'en donnerai deux. La première, c'est que tout d'un coup, il y ait un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alors bien sûr, il y a un intermédiaire, mais c'est Jésus-Christ. Et il y a un seul intermédiaire. Et c'est lui qui nous accorde le pardon des péchés. Et donc le risque, quand on confesse nos péchés, c'est de trouver un homme, une femme, qui se place entre Dieu et nous pour nous accorder le pardon. C'est absolument extraordinaire, parce que quand on se confesse les péchés les uns aux autres, on peut annoncer le pardon de la part du Seigneur. Si quelqu'un vient nous dire, mais écoute, tu sais, Ben, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et qui se confesse sincèrement, je peux lui dire, eh bien, Dieu te pardonne de tes péchés. Et ce n'est pas quelque chose qui m'est réservé à moi, c'est quelque chose qui est pour tous les disciples de Jésus-Christ. Et des fois, on a besoin. Des fois, j'ai besoin que quelqu'un me dise, mais oui, tu sais, Ben, tu es pardonné de tes péchés. Et ça fait du bien. Mais il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas un homme qui pardonne, c'est Dieu qui pardonne. Ne mettons pas d'intermédiaire entre Dieu et nous, autre que le Christ. Et puis, le deuxième risque, évidemment, c'est la manipulation. Parce que si on confie nos faiblesses aux autres, eh bien, peut-être que si on tombe sur une personne mal intentionnée, eh bien, elle se sert de cela pour nous conduire sur un chemin sur lequel nous n'aimerions pas aller. Et là, une remarque de bon sens, eh bien, quand on se confie à quelqu'un, veillons à ce que cette personne soit digne de confiance. Ne racontons pas nos soucis à tout le monde. Ne racontons pas nos soucis à n'importe qui, au premier venu. Alors avant de passer au prochain point, je vais peut-être juste ouvrir une petite parenthèse. Parce que quand on parle de confession des péchés, parfois, on entend qu'il faut confesser le péché de ses ancêtres ou confesser les péchés qui ont lieu dans notre société. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais dans certains mouvements, c'est quand même assez fort, assez présent, que ce soit de façon collective ou des fois dans des entretiens pastoraux ou quand on a un problème dans sa vie, on va essayer de voir quel ancêtre a péché et comment on peut demander pardon pour ce péché. Mais qu'en dit la Bible ? Et la réponse à cette question n'est pas si facile. Donc je vais essayer de faire un petit résumé, je m'appuie sur un article de Michel Yonner qu'on peut trouver en ligne sur le sujet. Et en fait, il y a quelques passages dans la Bible, si on pense à Daniel 9, et puis il y en a un autre qui ne me revient pas juste maintenant, où on est invité à demander pardon pour les fautes de nos pères. Et il y a d'autres textes, comme Ézéchiel 18, qui dit clairement « Chacun est responsable de son propre péché et sera puni uniquement pour sa propre faute ». Et donc on a un petit peu cette tension qu'on retrouve d'ailleurs dans les 10 commandements. En Exode 20, les versets 4 et 6, « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Alors, sans entrer dans une longue analyse, mais quelques éléments saillants. Imaginons qu'une génération, ça dure 20 ans. Ça, c'est la durée courte des générations. Des fois, dans d'autres calculs, on va prendre 40 ans. Mais imaginons la version courte, 4 ans. La malédiction va durer entre 60 et 80 ans. Et la bénédiction, elle va durer jusqu'à quand ? 20 000 ans. Vous imaginez ? 20 000 ans de bénédiction contre 60 à 80 ans de malédiction. Donc je suis convaincu que la première fonction de ce texte, c'est mettre la disproportion entre la bénédiction et la malédiction. Ensuite, la deuxième chose, c'est le terme « je punirai la faute des pères sur les fils ». C'est un thème où il y a de longs débats, vous allez dire, comme dans beaucoup de termes bibliques, mais il y a de longs débats sur ce que ça signifie et comment on doit le traduire. Et puis peut-être la clé qu'on peut peut-être retenir par rapport à ça, c'est est-ce que nous sommes solidaires de ce péché ? Et on remarque des fois, et ça, ça vaut à la fois de génération en génération, mais aussi par rapport aux choses collectives. C'est que d'une façon ou d'une autre, des fois, on devient solidaire du péché de nos pères. Prenons par exemple des comportements qui ne plaisent pas à Dieu. Et on remarque que ces comportements, je ne sais pas, si on prend la colère par exemple, si on imagine quelqu'un qui est colérique, ben ça arrive parfois que son enfant devienne lui-même colérique par effet d'imitation, ou je laisse les psychologues décrire tout ce qui fait qu'il y a certains comportements qu'on transmet à nos enfants. Et en fait, je deviens solidaire du péché de mes pères, parce que, non pas parce que c'est mon père qui a péché, mais parce que je me retrouve à pratiquer moi aussi le même péché que mes pères. Dans la société, on trouve aussi un petit peu de ça. Des fois, on est dans des systèmes où on se retrouve solidaire du péché de la société. Parce que, je ne sais pas, on prend des systèmes où on va autoriser certains comportements et où on est solidaire parce qu'on les finance, parce qu'on les a approuvés sans le vouloir. Pour toutes sortes de raisons, on se retrouve solidaire de ces péchés-là. Et je crois que dans ces cas-là, eh bien oui, nous sommes appelés à confesser ces péchés-là. Mais il y a aussi tout plein de fois où nous subissons les péchés de nos pères ou de la société. Si on pense dans des cas dramatiques, des fois dans des familles, il y a des abus. Ce serait complètement absurde que ceux qui ont été victimes ou qui ont subi ces abus commencent à demander pardon comme si c'est eux qui les avaient faits. Ou bien même si ce n'était pas sur eux-mêmes, qu'on commence à demander pardon pour un péché que nous n'avons pas du tout commis. Je suis convaincu que la Bible ne nous appelle pas à ça. Par contre, là où il y a un appel et où ça, je crois vraiment que ça porte du fruit, c'est à être dans la lumière. C'est de pouvoir dire, mais oui, il y a ça qui s'est passé dans notre famille. Et c'est terrible, oui, il y a eu des abus dans notre famille. C'est terrible, oui, il y a eu de la violence dans notre famille. Et c'est terrible, et on ne veut plus que ça se reproduise. Et on ose le mettre en lumière. Et de même dans notre société. Quand il y a quelque chose qui ne vous va pas, nous sommes appelés à mettre cela à la lumière. Et on peut toujours prier, mais Père, pardonne-leur. C'est la prière de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors voilà, j'espère que ça donne quelques pistes par rapport à ça. Alors j'en reviens, je referme la parenthèse et je continue sur la confession des péchés. En fait, la confession des péchés, il y a d'innombrables bienfaits qui sont liés à la confession des péchés. Ben, le premier, le plus évident, c'est que quand on confesse nos péchés, on obtient le pardon. Et quelle grâce ça fait d'être pardonné par Dieu. Parce que si on n'obtient pas ce pardon, eh bien on sait au fond de nous-mêmes qu'on mérite une punition, qu'on va être puni pour ce que nous avons fait ici-bas ou dans l'au-delà. Et quand on regarde ce que Jésus a accompli sur la croix, il est mort et cette punition que j'aurais dû avoir pour le mal que j'ai fait, c'est lui qui l'a porté. C'est juste incroyable. Et la vie qu'il a reçue, il me la partage. Waouh ! Et pour ça, on peut simplement confesser nos péchés. La deuxième chose, c'est que ça fait grandir notre humilité. Et ce que je suis en train de dire là, confesser ses péchés, mais c'est dans une société de performance, c'est complètement absurde. Normalement, si vous allez, je sais pas, dans un entretien d'embauche, vous n'allez jamais dire ce que vous ne savez pas faire. Vous allez mettre en avant ce que vous savez faire. On est dans une société où on est appelé à mettre en avant les meilleurs côtés de nous-mêmes et surtout pas dire qu'on a des faiblesses. Parce que quand on a des faiblesses, ben, on risque de se faire laminer. Et en fait, la Bible nous appelle à être humble. Et c'est une qualité qu'on apprécie. Quand on rencontre quelqu'un, on apprécie d'avoir en face de soi quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, mais quelqu'un qui est humble. C'est d'ailleurs l'exemple que le Christ nous a montré. Et ça demande de la foi. Ça demande de la foi parce que ça veut dire que si j'accepte d'être humble, si j'accepte de reconnaître mes faiblesses, ben, il faut que je puisse compter sur quelqu'un qui va pallier à mes faiblesses. Et en fait, on peut être humble, on peut reconnaître nos manquements, parce qu'on sait que celui qui nous devance, il est parfait. On sait que le Christ, il va marcher devant nous, il va nous ouvrir une voie, et que nous, nous ne sommes pas parfaits, qu'il n'y en a qu'un seul qui est parfait, c'est le Christ. Et je suis convaincu que pour pouvoir confesser nos péchés, on a besoin de foi. On a besoin de s'attendre à ce que Christ nous trace un chemin. Et chose incroyable, c'est que la confession des péchés va nous aider à changer. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans une forme de lamentation. Je crois qu'on a tous rencontré une fois quelqu'un ou l'autre qui est en train de se lamenter de ses problèmes et qu'une fois qu'elle a fini de se lamenter de ses problèmes, en fait, elle n'a pas fini parce qu'elle continue. Et puis, c'est sans fin. Et puis, il n'y a pas de confession des péchés. Y a pas de, elle ne reçoit pas le pardon. Elle est juste dans une plainte continuelle. Et c'est terrible. Et la confession des péchés est très différente. C'est qu'on va apporter nos péchés auprès de Dieu. On va apporter nos manquements. Et on croit qu'il va pourvoir à ce dont on a besoin pour changer. Malheureusement, ça ne vient pas toujours paf du jour au lendemain. J'ai vu des gens qui reçoivent une délivrance du jour au lendemain et leur péché est définitivement derrière eux. Puis des fois, ça prend des années. On se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de confesser toujours le même péché. Puis d'un coup, on regarde derrière et on se dit, waouh, mais quelle progression! Ayons confiance, Dieu va nous transformer. Et c'est ce qu'on cherche. Oui, hein, on a besoin de mettre de l'ordre dans notre vie. Alors comment le mettre en pratique? Alors j'aimerais proposer une piste, c'est de trouver quelqu'un de confiance. Trouver quelqu'un de confiance avec qui vous pouvez partager vos réussites et vos échecs. Et je pense qu'une des façons de faire, c'est d'avoir des petits groupes, d'avoir un groupe de prière avec lequel on se retrouve régulièrement. Et puis, ça permet de lire la Bible ensemble, de prier ensemble, de partager nos défis, nos joies, nos craintes. Parce que la confiance, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Et pour pouvoir confesser ses péchés à quelqu'un de confiance, il faut avoir construit une relation avant. Et si on est dans une dynamique, on a régulièrement ces rencontres, on peut prier ensemble, on peut partager nos joies et nos échecs, et ben, le jour où on se sera planté monumentalement, et ben, on pourra en parler. Par contre, si on n'a pas ce cercle de confiance, eh bien, le jour où on va se planter monumentalement, ce sera beaucoup plus difficile de savoir vers qui se tourner. Donc, je vous encourage vraiment à trouver un groupe avec qui vous pouvez prier régulièrement. Il y en a quelques-uns dans l'Église, mais peut-être qu'on peut aussi en démarrer de nouveau si il y a un besoin à ce niveau-là. Et puis après, bien sûr, moi je suis toujours disponible si vous avez besoin. Vous savez, dans l'église catholique, je fais une formation avec des catholiques et puis on buvait une bière le soir avec, il y avait un prêtre en face de moi, incroyable, qui fait partie de l'ordre des salvatoriens, enfin c'est assez incroyable. Il a un petit chasuble dans sa poche qui est violet, parce que si quelqu'un a envie de se confesser, il doit mettre ce chasuble et puis il doit accepter la confession. Alors il en a un grand pour les cérémonies, quand il est dans tout, je n'ai pas tout compris le système, mais il l'a toujours dans sa poche parce qu'il dit, mais si quelqu'un a besoin de se confesser dans la poche, ben, je sors mon chasuble et je peux le confesser. Et je trouve assez sympa de se dire, mais il est toujours disponible si quelqu'un a besoin de se confesser et de se tourner vers Dieu. Honnêtement, moi je ne tiens pas forcément à recevoir les confessions de toute l'Église, mais je suis tout à fait disponible pour ça, n'hésitez pas. Et bien sûr, j'ai le secret de fonction, donc après je suis muet comme une carpe. Voilà, on arrive gentiment à la conclusion de ce message. Est-ce qu'on a envie de mettre de l'ordre dans sa vie? Et ça fait partie du réveil. Et je crois qu'on ne peut pas espérer vivre un réveil sans mettre de l'ordre dans sa vie. Ça prend du temps. Je crois honnêtement que c'est le travail de toute une vie. Mais il y a une réelle progression. Et j'aimerais encore, pour terminer, vous parler de Pierre. Vous connaissez Pierre, le disciple de Jésus. Et à un moment donné, Pierre dit à Jésus, « Mais tu sais, même si tout le monde t'abandonne, je vais te suivre. » Et Jésus lui dit non. Quand tout le monde m'abandonnera, tu vas me renier. 3 fois. Le père, il dit, mais non, c'est pas possible. Là, tu vas voir. Le coq ne va pas chanter que tu m'auras renié 3 fois. Jésus se fait arrêter. Pierre le renie 1 fois, le renie 2 fois, le renie 3 fois. Terrible. Quelque temps plus tard, Christ ressuscite et il va à la rencontre de Pierre et il lui pose 3 questions. Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes brebis. J'aime beaucoup ce passage parce que, en fait, ça casse tous les schémas. Pierre ne passe pas par la case confession des péchés. Repentance. Mais Jésus va vers lui et lui pose des questions pour lui dire, écoute, je sais ce que tu as vécu, je vois ton cœur et tu es pardonné. Et moi, je trouve ça extraordinaire, parce que ça signifie qu'en demandant de confesser nos péchés, Dieu n'est pas en train de chercher à nous humilier. Et là, je n'utilise pas le terme humilité comme avant, humilier dans le sens dégradé, dans le sens rabaissé. Dieu, il cherche à nous relever. Et l'important, ce n'est pas tellement le mode préparatoire qu'on va suivre. Est-ce qu'on a vraiment fait la confession des péchés à genoux avec... Non, ce qu'il veut, c'est nous réhabiliter dans notre relation avec lui. Et la confession des péchés est le moyen ordinaire. Heureusement, nous avons un Dieu extraordinaire. Amen. Seigneur, on aimerait se placer devant toi. Quelle grâce d'avoir un sauveur. Parce que sinon, on ne pourrait pas s'en sortir. Il y a tellement de choses qu'on fait mal par incompétence. Il y a tellement de choses qu'on fait mal simplement parce que le mal est attaché à nous. Seigneur, on aimerait te redire notre besoin profond de Jésus-Christ. Seigneur, envoie ton esprit pour qu'on soit réveillé, pour qu'on puisse voir où il y a du désordre dans notre vie et qu'on puisse s'atteler au rangement. Seigneur, merci parce que nous savons que tu ne nous laisses pas seuls, mais que tu nous accompagnes, que tu nous accompagneras à chaque étape. Et c'est pourquoi on veut se confier en toi. C'est pourquoi on veut te demander pardon. Et on veut te demander de nous faire grâce, de nous pardonner, de nous aider à grandir avec toi, de nous aider à changer. Seigneur, fais de nous un peuple réveillé. Amen.